Bel été à tous à l'écoute d'Europe 1, midi 30, un journal complet avec Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour Fatima, bonjour à tous.
On roule en accordéon avec une moyenne de 40 km/h, à voir si ça s'améliore un peu plus loin, on verra bien.
Ah, c'est pas encore parti pour, avant la plage, calvaire autoroutier annuel pour les vacanciers qui partent dans le sud. Johanna Chabas nous racontera ses grands départs, on fera également un point détaillé sur vos conditions de circulation. La loi de bioéthique adoptée cette nuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, reste encore plusieurs étapes avant l'arrivée de la PMA pour toutes. Empêcher serviettes et vacanciers de s'entasser, les Sables d'Olonne ferment leurs plages 3 heures par jour.
Quand la mer est haute, la plage se réduit vraiment. Et donc il n'est pas raisonnable dans le contexte sanitaire de laisser organiser une surfréquentation sur une trop petite bande de sable.
Elle fait rire les ados du monde entier, mais pas Donald Trump, l'application chinoise TikTok.
On pourrait l'interdire, on pourrait aussi prendre une autre décision. Plusieurs options sont sur la table.
Et on vous explique tout dans 10 minutes. À suivre aussi, la météo encore un peu chaude et orageuse de Valérie Darmon. Et juste avant 13h, les conseils juridiques de Roland Pérez. Soyez les bienvenus dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jusqu'à 6 millions de voitures sur les routes françaises aujourd'hui et peut-être la vôtre. Bon courage dans ce cas-là. Samedi, classé noir dans le sens des départs en vacances. On se bouscule sur les routes et on se bouscule aussi évidemment sur les aires de repos comme à Saint-Rambert-d'Albon, tout au nord de la Drôme. C'est là où vous vous trouvez, Johanna Chabas.
Oui Adrien, c'est bien simple, le parking est plein à craquer, les voitures font plusieurs tours avant de trouver des places. Partout, des plaques d'immatriculation de Normandie, du Grand Est, d'Île-de-France ou encore de Belgique. Les voyageurs se sont parfois levés très tôt pour essayer d'éviter les bouchons. Sans grand succès, Pascal et Muriel sont tous deux sur la route depuis 5h ce matin.
On avait prévu partir beaucoup plus tôt. Maintenant, on roule en accordéon avec une moyenne de 40 km/h. À voir si ça s'améliore un peu plus loin, on verra bien.
C'était prévisible, mais bon. De toute façon, les locations, c'est du samedi au samedi, déjà et d'une. Et de deux, moi, mes vacances sont imposées, donc voilà. Guère le choix sur les semaines.
Chacun essaye de faire une pause déjeuner à l'ombre. Les tables sont aussi précieuses que les places de parking, mais encore plus rare, le masque. S'il ne le porte pas sur le nez, la plupart des voyageurs m'assurent l'avoir dans la poche. Mais pas question de changer ses habitudes de vacances pour Romain.
On a tout ce qu'il faut, on est parti pour. Ça n'a rien changé, on a maintenu nos vacances parce qu'on voulait continuer à vivre tout simplement et on voulait se faire plaisir avec nos vacances bien méritées.
Pour lui et sa famille parisienne, direction la Corse, où malgré tout, ils vont faire attention et privilégier les plages moins connues pour rester loin de la foule.
Merci beaucoup Johanna Chabas depuis l'air de repos de Saint-Rambert-d'Albon. Et n'oubliez pas, bien sûr, outre le masque, la pause, c'est toutes les 2 heures. Pas de pause en revanche pour vous, Jihan Bergaoui. Vous scrutez pour nous depuis ce matin vos écrans de contrôle et vous nous le confirmez. Le point noir en cette mi-journée, c'est bien l'autoroute A7.
Absolument. Et je vous donne un exemple pour faire Lyon-Orange. Comptez en ce moment 4 heures de route contre 1h30 d'habitude.
Ah oui.
Il va donc falloir être très patient, notamment à la hauteur de Valence et de Montélimar. Et c'est un tout petit peu mieux dans le sens des retours. Alors ça, c'est pour l'A7, la vallée du Rhône. L'autre grand axe qui pose problème, c'est évidemment l'A10 entre Paris et Bordeaux, avec une circulation en accordéon qui s'intensifie au fil de la journée. Plusieurs tronçons très chargés au nord de Tours, de Poitiers, vers Niort et Bordeaux. Là, il faut parfois une heure pour passer 30 km de bouchons. Pour les autres axes, c'est rouge sur la 71 au nord de Clermont-Ferrand, sur la 61 entre Toulouse et Narbonne, sur la 13 en direction de la Normandie. Et puis, il va falloir être patient également pour traverser la frontière italienne. Il y a environ 45 minutes d'attente avant d'emprunter le tunnel du Mont-Blanc. Alors, un conseil, si vous pouvez reporter votre départ, attendez plutôt la fin d'après-midi vers 18-19 heures. La circulation devrait être un tout petit peu plus fluide dans le sens des départs comme des retours.
Et en plus, il fera peut-être un peu plus frais pour ceux qui sont dans la vallée du Rhône. Merci beaucoup, Jihan Bergaoui, et bonne route à toutes et à tous. Et une fois que vous serez arrivé, une relative mauvaise nouvelle vous attend peut-être du côté des Sables d'Olonne. Je dis relative car une petite partie de la plage là-bas est interdite 3 heures par jour. La raison, la marée qui monte, le risque de voir des serviettes qui se rapprochent et des vacanciers qui s'entassent. Forcément, ce n'est pas la meilleure idée en période de Covid-19. Reportage en Vendée de Charles Guyard.
Il faut voir ça comme une opportunité pour aller faire du shopping, pour aller visiter le zoo, le musée d'art moderne de l'abbaye Sainte-Croix.
Voilà ce que les vacanciers vont pouvoir faire pendant 3 heures tous les jours jusqu'à vendredi prochain, car dans cet intervalle, les plages de la ville seront fermées pour cause de marée haute qui ne laisse presque plus de place pour étaler sa serviette. Yannick Moreau, le maire des Sables.
Quand la mer est haute et que les coefficients sont élevés, la plage se réduit vraiment. Et donc il n'est pas raisonnable dans le contexte sanitaire de laisser organiser une surfréquentation sur une trop petite bande de sable.
Ce samedi à 15h, la Cante de Brune va donc retentir pour ordonner l'évacuation de la plage et le drapeau rouge sera hissé pour interdire la baignade jusqu'à 18h. Une décision radicale mais accueillie avec bienveillance par les amateurs de sable fin.
J'aurais bien fait mon week-end entier à la plage mais je comprends aussi la mesure donc je m'adapte.
Si on l'aurait su avant, je pense qu'on ne serait pas venu. C'est pour notre sécurité et la sécurité de tout le monde. Donc je le comprends, mais c'est contraignant.
Reste à régler un dilemme que résume Mazarine.
Les gens qui vont monter sur leur emblée vu que la plage va être fermée, ben en fait on va être encore plus entassés.
Mais certains comme Martine et Nadia ont la solution.
On restera à la maison, on jouera à la pétanque. Du coup, on ira à la piscine et on ira peut-être dans d'autres plages.
Il reste en effet dans la station balnéaire près de 9 km de plages qui ne seront pas concernées par la mesure. Une mesure qui pourrait se renouveler autour du 20 août où de nouveaux forts coefficients de marée sont attendus. Les Sables d'Olonne, Charles Guyard, Europe 1.
Europe 1, midi 36, Adrien Beck.
C'est au bout de la nuit que l'Assemblée nationale a voté la loi de bioéthique qui ouvre la PMA pour toutes les femmes. 67 voix contre 37, seulement une centaine de députés présents pour ce vote en deuxième lecture. Reste encore l'étape du Sénat, puis celle de la promulgation. La députée des Yvelines, Aurore Berger, espère aller au plus vite. Elle était ce matin l'invitée d'Ève Roger.
Écoutez, je l'espère le plus vite possible et ça répond aussi à une des critiques qui était mais pourquoi est-ce que vous passez comme cela fin du mois de juillet ? Ben justement parce qu'on a des milliers de femmes qui attendent. Parce qu'on a des femmes qui attendent de pouvoir fonder leur famille, soit en couple de femmes, soit femmes seules et qui ont pris cette décision qui est lourde.
Le plus vite possible, c'est quoi ? C'est premier semestre de 2021 ?
J'espère au plus tard à l'été 2021, parce qu'on aura à nouveau ce débat, parce que le travail parlementaire s'arrête
pas. C'est pas fini.
Une deuxième lecture, mais je pense qu'on ne se mettra pas d'accord avec le Sénat, puisque le Sénat n'est pas tout à fait favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes, et encore moins à son remboursement. Donc on aura une troisième lecture, et je pense que du coup, ce débat-là, on l'aura à nouveau.
La députée des Yvelines, Aurore Berger, sur Europe 1 ce matin. À suivre, des vidéos courtes et amusantes. C'est l'application et même le phénomène TikTok. 1 milliard d'utilisateurs, mais Donald Trump veut l'interdire aux États-Unis. On vous dit pourquoi dans une minute.
Il est midi 39, la suite du journal Adrien Beck.
Donald Trump en guerre contre TikTok. Pourtant, le concept a l'air inoffensif. Des vidéos de quelques secondes où souvent des jeunes chantent, font des blagues, des imitations. Réseau social plébiscité par les ados. 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Mais voilà, application chinoise, Pierre Herbulot. Et ça ne plaît pas franchement à Donald Trump qui annonce son interdiction aux États-Unis.
Oui, puisque si le principe de TikTok, c'est chanter et danser, le gouvernement américain croit savoir qu'on y espionne aussi. Propriété d'un grand groupe chinois, la plateforme fait l'objet d'une surveillance renforcée par le SFIUS. C'est aux États-Unis l'agence chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. En attendant une annonce officielle dans la semaine, Donald Trump a évoqué le sujet cette nuit avant de monter dans Air Force One.
On réfléchit à TikTok, on pourrait l'interdire, on pourrait aussi prendre une autre décision. Plusieurs options sont sur la table, donc on verra ce qui va se passer. Mais on regarde toutes les alternatives concernant TikTok.
L'autre option sur la table dont parle le président américain, c'est provoquer une vente forcée de TikTok. Oui, mais voilà, quelques minutes après sa première intervention, Donald Trump, à bord de son avion, confirme finalement que c'est l'interdiction qui sera retenue. En sentant le vent tourner, le patron de l'appli a pourtant démenti cette semaine tout lien avec Pékin. Il s'est également engagé à avoir un haut niveau de transparence et notamment à permettre des contrôles de ses algorithmes. Insuffisant donc pour les États-Unis, pour l'Inde aussi, qui a déjà interdit le réseau social il y a un mois. En France, on est assez loin de ces préoccupations. La plateforme compte 4 millions d'abonnés, dont un que vous connaissez bien.
Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous.
Emmanuel Macron, inscrit sur TikTok depuis le mois de juin pour féliciter, vous l'entendez, les bacheliers.
Merci Pierre Herbulot. Les sports et dernière victoire parisienne pour la dernière Coupe de la Ligue hier soir au Stade de France. Deuxième titre en 8 jours pour Paris après la Coupe de France la semaine dernière. Mais ce qui intéresse vraiment le PSG, Julien Froment, c'est bien sûr la scène européenne. Quart de finale de la Ligue des Champions dans 10 jours. Mais là, les Parisiens ont matière à s'inquiéter.
Oui, mis à part quelques satisfactions comme Marco Verratti, Neymar ou encore le gardien Keylor Navas, il y a de quoi s'inquiéter justement avant ce match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Saint-Germain, d'habitude flamboyant en attaque, eh bien, s'est montré très maladroit. Un tout petit but lors de ses deux dernières finales. L'attaquant argentin, par exemple, Mauro Icardi, recruté pour 60 millions d'euros, n'a touché que 9 ballons. C'est très peu. Le jeu collectif est loin d'être fluide. Et plus globalement, il y a une Kylian Mbappé dépendance flagrante pour le Paris Saint-Germain. Alors, quand on fait ce constat, l'entraîneur Thomas Tuchel, il ne prend pas très bien.
On a seulement la chance. C'est comme ça. Pas qualité, seulement chance. Est-ce que vous savez les résultats, par exemple, de Liverpool contre Barcelone à Barcelone, comme ils ont joué et après ils ont gagné la Ligue des Champions? C'est, pour moi, c'est clair que moi, je cherche le négatif. Il y a 99 points positifs, mais voilà, on cherche le centième, on cherche le centième. Il n'y a pas de problème, on a gagné.
Pas de problème, mais quand même face à cette équipe de l'Atalanta Bergame qui a repris son championnat depuis plus d'un mois, qui possède la meilleure attaque de la Serie A italienne, le PSG devra obligatoirement proposer autre chose et aussi espérer que son arme principale, Kylian Mbappé, soit remis sur pied d'ici là.
Et on n'est pas encore sûr. Merci beaucoup Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Lui était vainqueur de la Coupe de la Ligue 2000. Alex Dupont est décédé cette nuit. Il entraînait à l'époque le club de Guignon, seul club de D2 à avoir remporté la coupe. Alex Dupont avait aussi entraîné Brest et Sedan. La météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Avec Valérie Darmon. Valérie, chaud et orageux encore aujourd'hui.
Et oui, le risque d'orage cet après-midi va concerner le Massif central, l'est des Pyrénées, les Alpes, les Vosges, le Jura et l'Alsace. Ces averses orageuses qui peuvent perdurer d'ailleurs la nuit prochaine sur l'Alsace et sur la Franche-Comté. Des Ardennes aux Pyrénées, en passant par le bassin parisien, le Val-de-Loire et l'ouest du Massif central, le ciel est toujours un petit peu instable dans une ambiance beaucoup moins lourde. Et pour le reste, eh bien, le pic de chaleur touche à sa fin. Pas encore partout, bien sûr, pas encore sur la façade est, mais demain ce sera le cas pour l'ensemble du pays. Les thermomètres sont donc en baisse dans de nombreuses régions, excepté dans la vallée du Rhône, avec 41 toujours annoncés cet après-midi à Avignon, 40 à Nîmes, 39 à Lyon, 37 à Marseille et Montpellier, 35 à Dijon et Strasbourg, 32 à Carcassonne et Rodez, 30 degrés à Périgueux, 28 à Bordeaux, 27 à Rennes, 24 à La Rochelle et à Biarritz, et enfin, en région parisienne, 30 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, un été où les Français plébiscitent la France pour leurs vacances. Le gouvernement l'espérait, c'est visiblement le cas. On part dans le Jura, dans une minute, l'un des grands gagnants de ce mois de juillet qui se termine.
Il est midi 46, la suite du journal d'Adrien Beck et votre premier invité.
La Corse, la Bretagne, vous y êtes peut-être en vacances et c'est normal, grand succès classique de l'été. Mais en cette année un peu particulière, les forêts de la Creuse, les petits villages de la Corrèze, les plateaux de l'Aveyron font sensation. Tout comme d'ailleurs les cascades et lacs du Jura. Bonjour Jean-Pascal Chopard.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Jura Tourisme. Alors, l'été semblait assez incertain. Finalement, on parle d'un rush à la campagne, à la montagne. Est-ce que vous confirmez cela dans votre région ?
Alors, on peut le confirmer tout à fait avec une fréquentation touristique sur le mois de juillet qui a été particulièrement soutenue, notamment après le 14 juillet, et une très forte fréquentation de la part des clientèles de proximité, mais également des clientèles nationales plus éloignées qui ont vu dans le Jura l'opportunité finalement d'une destination accessible, avec une nature préservée, sauvage, une forme de tourisme authentique et qui, je crois, rentrait bien en résonance avec l'attente des clientèles pour cette année.
C'est-à-dire que les Français, au fond, ont remplacé les Belges et les Néerlandais que vous pouviez voir les autres années?
Surtout sur le début du mois de juillet. Et le phénomène en fait qui s'est passé, c'est que malgré tout, parce qu'on a une offre en fait en hôtellerie de plein air, c'est-à-dire en camping, assez importante dans le département, et on a vu sur les dernières semaines de juillet revenir quand même pas mal de clientèle étrangère, notamment hollandais, notamment allemands et allemandes également, qui sont venus conforter cette fréquentation. Donc on peut dire qu'à la fois on a des Français qui sont très très présents, mais on a également une part de clientèle étrangère non négligeable sur ces derniers jours et dernières semaines de juillet.
Alors vous parliez de proximité, ils viennent d'où les Français? C'est quoi? C'est des Lyonnais? C'est des personnes de la région Bourgogne?
Alors traditionnellement en fait le Jura se situe on va dire dans la première moitié sud de la France, on va le dire comme ça pour être apparenté à une destination de vacances à part entière. première moitié sud de la France. Donc en fait, on a toute la clientèle nord de la France, parisienne également. Et puis on a un bassin de clientèle de proximité important, puisqu'on est dans un isochrome à 2h, 2h30 du Jura. On a un bassin de clientèle à peu près de 6 millions de personnes avec le bassin lyonnais, avec la Suisse également toute proche,
oui.
Et puis les Savoies avec une belle clientèle aussi qui fréquente le Jura régulièrement issue de ces bassins-là.
Alors vous parliez des campings, on sait que c'est un grand succès dans votre département. C'est quoi vos taux de remplissage pour juillet, et ça va ressembler à quoi pour le mois d'août là, si vous avez un peu de visibilité?
Alors sur juillet en fait, sur le locatif, c'est-à-dire en fait les gîtes meublés, hébergement chez l'habitant en fait, on va dire pour faire simple, on a des taux d'occupation qui sont historiquement très élevés, jamais atteints je crois dans le département du Jura.
Historiquement.
On a 100% de taux d'occupation sur les deux dernières semaines de juillet et les deux premières d'août. Donc c'est assez inédit en fait hein, cette fréquentation-là. Dans les campings également, donc c'est une fréquentation assez soutenue, notamment sur les campings à proximité des sites liés à l'eau. Et puis l'hôtellerie qui tire son épingle du jeu aussi avec un retour de la clientèle chez les hôteliers. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est un secteur économique, c'est un secteur touristique, l'hôtellerie et la restauration, qui a beaucoup souffert pendant le confinement, bien entendu. Et aujourd'hui, on est très satisfait de voir les consommateurs revenir sur ces formes d'hébergement à la nuitée et sur des courts séjours également. Donc c'est un élément très positif.
Alors, on ne peut pas quand même s'empêcher d'y penser. Vous nous dites que vous êtes vraiment... Les taux de remplissage sont historiques. Le Jura, c'est le patrimoine naturel aussi. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas poser un petit peu problème, cette affluence, que ce soit sur les lacs, aux alentours des cascades, etc., pour vous ?
Si, ça pose la question de l'éducation et de la sensibilisation qu'il faut absolument que l'on puisse avoir auprès de la clientèle.
Parce que vous avez observé que ce n'était pas le cas ?
Ben, le Jura, c'est un capital nature. Le Jura, c'est certes des cascades, des lacs, des rivières, mais c'est une nature à préserver parce qu'elle est fragile. Et il faut absolument passer le message auprès des touristes et auprès des vacanciers que s'ils veulent que le Jura reste ce qu'il est aujourd'hui, ce qui fait son succès, eh bien, ça nécessite en fait une certaine éducation, un certain respect à l'environnement, un certain respect vis-à-vis des habitants également. Parce qu'aujourd'hui, on constate en fait une trop forte fréquentation sur certaines zones du département, sur certains lacs, qui ne sont pas dimensionnés en fait pour accueillir une telle fréquentation-là. Et il faut vraiment qu'on arrive à faire passer le message que dans le Jura, il n'y a pas que les lacs, et il n'y a pas que certains lacs. Il y a aussi tout un massif, il y a aussi tout un environnement, et un tourisme diffus, un tourisme de randonnée, un tourisme de nature, un tourisme à vélo. Et plutôt que de venir en voiture jusque dans les derniers mètres en fait de la plage pour venir accéder au lac, eh bien pourquoi pas combiner ce déplacement avec une petite randonnée, avec un déplacement en vélo assistance électrique, avec tout un mode de tourisme qu'il faut réinventer pour que ce tourisme soit acceptable d'un point de vue environnemental. C'est capital pour nous.
Mais ça tient aussi peut-être au profil des touristes qui sont là cette année.
Alors, un petit peu plus sur juillet que sur août,
oui.
Effectivement. Mais je pense que...
On parle souvent, pardon, quand on pense au Jura, on pense à un tourisme assez familial, etc. Pas forcément des jeunes, mais plus un tourisme de famille, tranquille au fond et assez respectueux.
Oui, c'est vrai que la majorité de la clientèle... répond à ces aspérités-là. Mais comme on voit, on a une clientèle cette année qui est un petit peu différente. On a un petit peu plus de tourisme, on va dire, un petit peu plus concentré. Donc il faut à nouveau passer ces messages et puis tout faire pour que il n'y ait pas de nuisances environnementales importantes. Nos lacs sont fragiles. En plus, on a eu une période en fait de très forte température avec un peu de canicule. Et donc ça met à mal un peu le milieu naturel. Et c'est important, en fait, de vivre ces vacances dans le respect de ces sites naturels et dans le respect des habitants, parce que c'est comme ça qu'on va réinventer un nouveau tourisme si on veut continuer à bénéficier de cette fréquentation. Et puis, il faut voir aussi que le Jura, c'est pas que les sites naturels, c'est pas que les lacs, c'est aussi un tourisme de savoir-faire. Et c'est aussi un tourisme qui permet la découverte du tourisme de savoir-faire. Oui. Il y a des pépites dans le secteur industriel, dans l'agroalimentaire.
Jean-Pascal Chopin.
Il y a tout un pan.
Jean-Pascal Chopard, si on parle aussi, si on se projette un petit peu, est-ce que ces touristes français qui viennent découvrir au fond le Jura, est-ce que vous imaginez que pour certains, ils pourraient envisager de venir s'installer chez vous ?
Eh bien écoutez, c'est exactement le pari qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de promouvoir le tourisme comme une destination de vacances pour le Jura, on a pour objectif de faire en sorte que le tourisme soit un levier d'attractivité et d'image pour le Jura, pour le faire connaître et donner envie de venir y travailler, d'y vivre et d'y travailler. Dans un territoire finalement qui a une certaine forme de modernité, qui est à la fois ancrée dans ses valeurs, mais qui est à la fois projetée dans l'avenir, avec des savoir-faire exceptionnels, des entreprises qui recrutent. Et on voudrait que ce tourisme-là, qui fait découvrir le Jura, soit aussi l'opportunité pour aider les entreprises dans leur recrutement. Parce qu'aujourd'hui, à salaire équivalent, à fiche de poste équivalente, qu'est-ce qui va faire la différence si ce n'est la qualité de vie, le cadre de vie?
Absolument.
Et une certaine relation au territoire.
Merci beaucoup Jean-Pascal Chopard, directeur de Jura Tourisme, et bon week-end.
Et place au juridique dans le Grand Journal midi 54. Adrien Beck, on retrouve Roland Pérez pour sa chronique « Ai-je le droit ?».
Bonjour Roland.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Comme chaque week-end, on se penche avec vous sur les litiges qui peuvent assombrir notre été. Alors en ce samedi, vous nous dites attention aux réservations en ligne. Il peut y avoir tromperie, que vous réserviez des vacances, un hôtel ou même un restaurant. Alors Roland, à quoi faut-il être vigilant?
Alors les plateformes de réservation hôtelière en ligne, Adrien, sont les grands privilégiés des Français mais aussi des Européens. Les utilisateurs peuvent rechercher, on le sait, comparer les offres, analyser les commentaires des clients et même voir des photos, si ce n'est que parfois, il y a de faux avis, des décalages de prix et des mensonges avérés sur les offres, ce qui doit amener les consommateurs à être particulièrement prudents quand ils réservent.
Et alors, quels sont vos conseils?
Il faut tout d'abord, à la loupe, examiner les offres en les comparant à celles d'autres sites qui proposent le même hôtel pour une même période, en s'assurant que les mêmes frais et avantages sont compris dans les offres en question. Ne jamais oublier de contacter directement l'hôtel pour vérifier que les prix sont à minima les mêmes que sur le site et pas moins chers. Et peut-être, allez, pourquoi pas, négocier directement, c'est possible, certains avantages. La vue, par exemple, sur mer, un lit enfant, un petit déjeuner.
C'est possible, ça.
Ça, c'est possible. On peut toujours le faire directement. Et enfin, les avis des clients qui sont, s'ils sont effectivement très utiles et parlants, il est possible qu'ils aient été achetés et donc orientés. Et pour en avoir le cœur net, là encore, il faut explorer d'autres plateformes concurrentes et lire les avis pour voir s'ils finalement convergent ou non dans l'ensemble.
Donc il faut prendre un petit peu son temps.
Et puis surtout, on n'a pas le droit à l'erreur quand on réserve en ligne des dates de billets, un hôtel ou un club avec les jours d'arrivée et les jours de départ, et lorsqu'on complète également l'état civil des voyageurs. Alors mon conseil est de bien relire avant d'envoyer, avant de valider avec votre petit doigt la touche, et surtout de tout imprimer et de conserver en cas de contestation. Sachez enfin que les agences de voyage en ligne ou sites de réservation en ligne sont responsables de la non-conformité des prestations proposées et vendues, et le code du tourisme leur est pleinement applicable, sans oublier les fameuses CGV, les fameuses conditions générales de vente, sur lesquelles il faut jeter un œil avant de s'engager et de payer.
Ce que vous nous dites, Roland, c'est qu'il faut prendre son temps pour réserver ses vacances et faire très attention. Merci d'aiguiser notre vigilance. On vous retrouve demain. Alors de quoi parlera-t-on?
D'un sujet qui va faire plaisir à tous ceux qui restent en France pour les vacances. Quels sont les droits des consommateurs?
Ah oui.
Au café et au restaurant, même là, le droit prend la parole, on va le voir.
Merci Roland, à demain.
À demain.
Et c'est l'heure de retrouver la météo des plages avec Valérie Darmon.
Absolument, et Valérie, on part dans le sud-est.
Très beau temps sur le pourtour méditerranéen et une moyenne sur les plages de 36 degrés, tandis que l'eau gagne encore quelques degrés forcément avec ce très beau temps, entre 23 dans l'Hérault et 26 dans les Alpes-Maritimes, cette Méditerranée qui est très peu agitée. Même chose d'ailleurs côté agitation, c'est-à-dire sur la Manche et la mer du Nord. Absolument aucune rafale de vent à prévoir. En revanche, l'eau est beaucoup plus fraîche, mais c'est très agréable. Entre 17 dans le Cotentin et 20 en baie du Mont-Saint-Michel. Et sur vos magnifiques plages normandes, entre 22 et 25 degrés. 22 pour Étretat, 25 pour Saint-Malo. C'est nuageux, plus ou moins, sur l'arc atlantique, avec des valeurs sur le sable, entre 22 à Lorient et 25 à Mimizan. Un océan assez calme, entre 19 depuis le Sud-Bretagne et 24 sur la côte basque, plus agité sur le Finistère Sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Merci Adrien Beck. Prochain point sur l'info dans moins d'une heure sur Europe 1. D'ici là, dans quelques minutes, vous allez retrouver au cœur de l'histoire, direction les États-Unis, la guerre d'indépendance et surtout l'histoire de ce héros, le marquis de Lafayette. Europe 1.